Vous êtes sur RTL.
RTL.
Il est là, mon seigneur.
Vous savez mentir, hein?
Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas.
Le journal inattendu.
Are you?
You are? Where is Big Moustache?
Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Comment ça, le mou, vous êtes juif? Oh!
C'est d'abord un personnage avec une force comique absolument inouïe. Mon père savait que cette folie, il fallait essayer de la pousser encore plus loin pour avoir la prise qu'aujourd'hui tout le monde voit dans le film.
12h30, 13h30. Le journal inattendu de Daniel Thompson avec Ophélie Meunier sur RTL.
L'univers de mon père, c'était un univers extrêmement joyeux et pénétré de l'envie de faire rire le public.
Bonjour Daniel Thompson.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu. Je suis ravie que vous preniez aujourd'hui les commandes de cette émission. Scénariste des plus grands succès du cinéma français, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum, réalisatrice de La Bûche, Fauteuil d'Orchestre, Le Code a changé pour ne citer que. Vous êtes aussi la fille du réalisateur Gérard Horry, votre père qui n'avait qu'un seul message, c'est le rire. Quand les hommes rient, ils ne sont pas méchants. Alors on va passer un moment avec vous sous le signe de l'humour et du cinéma. Deux grandes rétrospectives sont à découvrir en ce moment à la Cinémathèque à Paris consacrée à Louis de Funès et à votre père. Le cinéma et l'humour qui sont aussi au cœur de vos nouveaux projets. Vous nous direz de quoi il s'agit et où cela en est. Comme chaque semaine, vous nous livrerez votre regard sur l'actualité. On découvrira votre reportage inattendu. Vous laisserez un message à quelqu'un sur notre répondeur, c'est notre nouvelle rubrique. Et puis une petite surprise vous attend en fin d'émission. Mais avant tout ça, c'est la tradition. Notre invité ouvre le journal inattendu en faisant son autoportrait. Alors Daniel Thompson, qui êtes-vous?
Alors d'abord, c'est très difficile parce qu'on m'a dit une minute. Donc je suis un peu pétrifiée, mais je vais essayer de prendre votre temps très vite. Alors voilà, longtemps je me suis appelée Daniel Horry. J'ai deux enfants et quand j'ai quitté leur père, j'ai gardé leur nom. Alors je m'appelle depuis Daniel Thompson. Bon, alors je pense qu'on va faire comme avec un livre un peu trop long, ce que d'ailleurs je fais très rarement, mais on va sauter des passages et on va aller de chapitre en faisant des grands sauts dans le temps.
Allons-y.
Alors je suis née à Monaco pendant la guerre, un peu en route, comme disait joliment un ami, dont les parents comme les miens fuyaient les persécutions nazies. Enfant unique, enfant joyeuse, parents jeunes, beaux, comédiens, couche-tard, panier percé, ils m'emmenaient partout. Grand-mère suppléante, bohème, magique, future poupette, elle m'emmenait partout. Mes lycées austères, quartier Saint-Lazare, mur gris, blouse grise, chiottes à la turque, pas un homme à l'horizon, maquillage interdit, pantalon interdit, garçon interdit, mai 68 encore très 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 loin. Après les cours, je m'enfuis, j'oublie les devoirs et je file me blottir au fond des salles vides où mes parents répètent des pièces de théâtre. Théâtre des Mathurins, théâtre de l'œuvre, comédie française, mon père joue les salauds, Karénine, Don Saluste, lui, si tendre et si plein d'humour. Je vais dans des surbooms, j'écoute les Platters, Elvis, Gilbert Bécaud. Un endroit, je m'ennuie, je rêve d'Amérique. Chapitre 2, New York. Les années bilingues, les années pop art, pas de def, grelot, chemise indienne, les cours d'histoire de l'art, un mariage, deux enfants, des vols New York, Paris, New York, un divorce, la grande vadrouille, le cerveau, la folie des grandeurs. Un apprentissage, inventer des histoires avec des mots qui deviendront des images. Le métier de scénariste, c'est un métier que j'aime profondément et passionnément. Chapitre 3. Les années rock. Je rencontre Albert Kosky, coup de foudre. Il produit les premiers énormes concerts dans des énormes salles qui n'existaient pas et qu'il invente. Je me fais draguer par Iggy Pop, on dîne avec Mick, Santana est mon copain, Bowie nous rejoint sur une plage, on vit le jour, la nuit. Les enfants grandissent entre Janson de Sailly et les coulisses. Dans les salles, les briquets s'allument, mais demain, il y a école et il y a scénario. J'ai du boulot. Les aventures de Rabbi Jacob, La Boum 1, La Boum 2, L'As des As. Chapitre 4. Les années plateau de cinéma. Ton film à toi, tu le fais quand? Albert me pousse, m'encourage, mon père aussi. Mais changer de métier à mon âge? Je suis déjà vieille. Et c'était il y a 20 ans. Alors, je fais une portrait chinois de mon film si c'était mon film. Ce serait une comédie? Mais pas que. Ce serait une histoire de famille? Mais pas que. Ce serait une histoire de couple, un conte de Noël? Oui, mais sans cadeau et sans réveillon. J'écris la bûche avec Christopher, mon fils. Caroline, ma fille, est ma première lectrice. Albert, un juge implacable. Et c'est comment travailler en famille? C'est comment travailler avec son fils? C'est comme travailler avec son père. Différence de génération, acharnement, fou rire, un vrai bonheur. Et puis un grand malheur. Mon père ne verra pas la bûche. Il a perdu la vue. Alors maintenant, on va quand même faire le bilan de tout ça. On a bien travaillé, on s'est bien amusé. Et 6 films plus tard, on continue. Chapitre 5. Je n'ai qu'un titre, pourvu que ça dure.
On n'avait pas envie que ça s'arrête. On va continuer à lire le roman de votre vie, Daniel Thompson. Mais d'abord, un point complet sur l'actualité. Week-end culturel dans toute la France avec les 37e journées du patrimoine. Programmes et visites ont été adaptés à la situation sanitaire. La majorité des sites à visiter restent accessibles. Nous serons à Matignon où le Premier ministre Jean Castex a rencontré un public enjoué ce matin. Les hôpitaux de France se préparent à accueillir de plus en plus de malades du Covid-19. Il n'y avait jamais eu autant de cas positifs recensés en 24 heures depuis la fin du confinement. Plus de 13 000. Le niveau 1 du plan blanc est activé. Les précisions dans ce journal. Elle était l'une des plus grandes figures de la gauche aux États-Unis. Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême, est décédée à l'âge de 87 ans. Le remplacement de cette juge progressiste, militante de la cause des femmes et des minorités, provoque un véritable bouleversement dans la campagne américaine. Nous serons avec notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet. En France, le temps est à l'orage dans certaines régions. Valérie Quintin.
Ouais, et en plus, il y a de très très gros orages dans les Cévennes. On a 3 départements qui sont placés en vigilance orange et il y a déjà des débordements. Le Gard, l'Hérault et la Lozère sont concernés. Des orages qui vont continuer comme ça tout au long de l'après-midi, une grande partie de la soirée. Donc, il faut vraiment rester prudent parce qu'en plus, l'eau glisse. Hein, les sols sont très très secs. Donc, il n'y a vraiment pas d'imprégnation des sols. Sur le reste du territoire, on va avoir quelques averses orageuses qui vont circuler, toujours entrecoupées de 2-3 belles éclaircies. Le soleil, le vrai, le beau, on va le trouver sur l'extrême nord, entre le Pas-de-Calais et l'Alsace. Tout cela avec des températures qui restent élevées. 21 degrés à Lorient, 24 à Nantes cet après-midi, 28 à Nancy et Clermont-Ferrand, 29 degrés pour Paris, Grenoble et Mâcon et 30 à Perpignan et à Albi.
Merci beaucoup Valérie. Daniel Thompson, vous prenez la relève de Valérie à 13h pour présenter la météo, ça vous va ?
Je suis prête.
Et Valérie, on vous dit à ce soir.
À ce soir.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est le rendez-vous culturel de la rentrée. Les 37e journées du patrimoine ont lieu ce week-end. Quelques sites ont renoncé à ouvrir leurs portes à cause du Covid, mais la majorité des lieux à visiter sont accessibles, sur réservation et à jauge réduite. Parmi les sites qui attirent le plus de visiteurs, l'Élysée ou encore l'hôtel de Matignon, le Premier ministre Jean Castex était présent ce matin pour accueillir un public masqué, mais très heureux d'être là, Marie Mollet.
Oui, au mythique 57 rue de Varennes, ce matin, le guide s'appelait Jean Castex, le locataire de Matignon en personne, qui devant une poignée de visiteurs montre le chemin, escalier d'honneur, décor en stuc, buste en bronze et peinture de Fragonard jusqu'au Saint des Saints, le bureau du Premier ministre. Petite leçon du fonctionnement des institutions.
Bon, voilà, donc ici, vous êtes dans le bureau du Premier ministre, dont je ne suis que le locataire. N'est-ce pas ? Bon. Donc, alors, ça peut-être me donne l'occasion de vous dire, non pas à quoi sert un Premier ministre, parce que ça pourrait être un peu long, mais un peu quelles sont les journées du Premier ministre.
Puis viennent les salons en enfilade, la salle où se déroulent déjeuner et dîner d'État, jusqu'au grand jardin à la française, où l'on passe en revue les arbres plantés par chacun des premiers ministres. C'est une vieille tradition. Édouard Philippe avait planté un pommier. Pour Jean Castex, ce sera un frêne. Visite surprise qui a enchanté les visiteurs, comme Jean-Luc.
C'était une très très belle surprise. Ça donne encore plus d'émotion à cette visite. La visite guidée du premier résident de ces lieux, c'est magique.
Visite qui se poursuit ensuite au Mobilier National avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Marie Mollet pour RTL avec Jonathan Griveaux. L'actualité, c'est aussi ce nouveau nombre record de contamination au coronavirus. 13 215 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Il n'y en avait jamais eu autant depuis la fin du confinement. Autre chiffre alertant, 20% des lits en réanimation sont désormais occupés par des patients atteints du Covid-19 en Île-de-France. Les hôpitaux se préparent à accueillir de plus en plus de personnes. Le niveau 1 du plan blanc est activé, Aurélia Valarié.
Oui, d'abord, il faut quand même rappeler que le plan blanc n'a jamais été désactivé depuis sa mise en place en mars dernier. C'est juste que face à la baisse des cas de coronavirus cet été, les moyens déployés ont été moins importants. Mais cette semaine, face au regain de l'épidémie, effectivement, plusieurs hôpitaux ont renforcé leurs effectifs dans le personnel soignant. C'est notamment le cas en Île-de-France, au CHU de Montpellier ou encore en Ardèche. Christophe Prudhomme est représentant CGT et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.
Il est clair que là, nous sommes en situation de tension majeure. Donc, on a une augmentation d'activité, il faut mettre plus de personnel. Donc, on voit quel personnel disponible. On va faire appel de nouveau aux étudiants parce qu'on a peu de personnel de réserve pour pouvoir nous adapter si effectivement cette situation d'activité particulièrement dense persiste dans les jours qui viennent.
L'urgentiste pointe aussi du doigt le fait qu'il y a eu pas mal de démissions de médecins ces derniers temps ou d'arrêts maladie, dus notamment aux mauvaises conditions de travail, ce qui fragilise davantage les services. Mais de son côté, la direction de l'APHP à Paris se veut plus rassurante. Les procédures de recrutement sont en place et les professionnels de santé préparés à une éventuelle deuxième vague.
Merci Aurélia. Face à ce regain de l'épidémie, de plus en plus de villes durcissent le ton après Bordeaux, Nice et Lyon. Tour de vis supplémentaire à Toulouse. Un nouvel arrêté entre en vigueur aujourd'hui dans cette ville à la forte population étudiante. Il est interdit de faire des activités festives dans les lieux accueillant du public et il est aussi interdit de consommer de l'alcool dans les espaces publics dès 13h aujourd'hui. On part aux États-Unis. L'information fait la une de tous les médias. La doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est décédée à l'âge de 87 ans. Icône progressiste du camp démocrate, figure de la lutte pour les droits des femmes, la nomination de son successeur devient un enjeu majeur dans la campagne américaine. C'est un bouleversement supplémentaire, Philippe Corbet.
Ah oui, cette présidentielle était déjà stupéfiante. Elle va devenir ahurissante. La bagarre pour la succession de Ruth Bader Ginsburg va dominer les 45 derniers jours de campagne, car le juge qui la remplacera siégera à vie. Le droit à l'avortement, au port d'armes et tant d'autres sont en jeu. C'est pour ça que Joe Biden demande au président Trump d'attendre l'élection. En 2016, un juge conservateur était décédé 10 mois avant l'élection. Le président Obama avait nommé un successeur, mais la majorité républicaine au Sénat, chargée de le confirmer, avait refusé de le recevoir. C'est notamment comme ça que le candidat Trump avait rassemblé le camp conservateur en faisant de l'équilibre de cette cour si puissante un enjeu de l'élection. Et donc s'il décide de laisser le siège vacant quelques mois, il peut s'offrir un argument électoral redoutable. Ou alors, les républicains décident d'accélérer, de nommer et confirmer un juge au forceps, le troisième de la présidence Trump. Même s'ils perdent la Maison-Blanche et le Sénat dans 45 jours, ils auront ancré la Cour suprême dans le conservatisme pour des décennies.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Daniel Thompson, vous avez vécu aux États-Unis. Ruth Bader Ginsburg a fait beaucoup avancer la condition de la femme. Hein.
Beaucoup. Il y a un film formidable qui a été fait, je crois, il y a 2 ans, qui s'appelait Une femme d'exception, avec Felicity Jones dans le rôle principal, qui racontait le parcours extraordinaire de cette femme et la difficulté, dès le départ, toute jeune, d'être acceptée, ne serait-ce déjà qu'à l'école de droit, et puis évidemment dans la suite de sa vie avec son mari, les sacrifices que ça a représenté. C'était une femme absolument extraordinaire et c'est vrai que ça va toucher complètement la vie profonde des Américains, puisqu'on parlait de l'avortement, on parlait du droit des armes, d'acheter des armes n'importe où, enfin tout ce qui est vraiment profondément ancré dans la culture et le mode de vie. Et donc si tout à coup cette Cour suprême, l'équilibre repart vers quelque chose de très très conservateur, c'est évidemment quelque chose qui est assez terrifiant.
Dans un instant, on part sur le Tour de France, étape cruciale à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Daniel Thompson, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Daniel Thompson et Ophélie Meunier.
RTL, Tour de France 2020.
Le Tour de France, c'est le Danois Craig Andersen qui a remporté hier la 19e étape, sans conséquence sur le classement général toujours mené par le Slovène Primoz Roglic. L'écart avec son dauphin Tadej Pogačar reste à 57 secondes. Aujourd'hui, rendez-vous à la planche des belles filles pour l'unique contre-la-montre du Tour. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
C'est une journée décisive pour le podium.
Oui, Roglic, Pogačar, Lopez, deux Slovènes, un Colombien. C'est le podium avant les 36 km 200 de ce contre-la-montre. autres, les positions resteront-elles figées? Primoz Roglic a une avance relativement confortable sur son compatriote et il sera le dernier à s'élancer à 17h14 précisément. Il saura au fil des kilomètres si son maillot jaune est en danger. Guillaume Martin, premier français, 12e, aura du mal à entrer dans le top 10. 1 minute 04 à combler, il en convient.
Je vais essayer de l'aborder très sérieusement, même s'il y a peu de chances que pour ma situation personnelle, il y ait beaucoup de changements. Mais voilà, on ne sait jamais. Je pense qu'il faut toujours rester impliqué sur ce genre d'épreuve. Et donc voilà, je vais le faire au maximum, bien sûr.
Et beaucoup de monde déjà dans cette ascension de la planche des belles filles au pied et dans le final de la montée. Des panneaux en pagaille pour soutenir l'enfant du pays, Thibaut Pinot, départ de Lure, sa ville natale, devant son lycée, en passant par Mélisée, son village. Son père dirige la commune. Le cœur va battre très fort et pas seulement en raison de l'effort. Départ dans un quart d'heure du premier coureur, ce sera l'Allemand Roger Kluge.
Merci Nicolas Georgerot, l'envoyé spécial de RTL sur le Tour de France. Le sport, c'est aussi le foot avec la 4e journée de Ligue 1. Match nul hier entre Lyon et Nîmes, 0-0. Rencontre à suivre aujourd'hui à 17h, Lens Bordeaux et Rennes Monaco à 21h. On refait le match avec Christian Olivier sur RTL dès 18h30. Vous retrouverez Eric Silvestro et Xavier Domergue de 20h à 23h pour RTL Foot. Et puis tout va bien pour les Bleus. L'équipe de France féminine s'est imposée hier en Serbie, 2-0. Match qualificatif pour l'Euro 2022. C'est leur 3e victoire en 3 rencontres. C'était l'essentiel de l'actualité. On est avec Daniel Thompson pour son journal inattendu. Votre actualité, ce sont ces deux grandes rétrospectives auxquelles vous avez contribué. Elles sont consacrées à Louis de Funès et à votre père, Gérard Oury. C'est à découvrir en ce moment à la Cinémathèque à Paris et c'est en partenariat avec RTL. Les deux sont des génies du cinéma comique, l'un acteur, l'autre réalisateur. Ces expositions, ça fait du bien, ils vous manquent tous les deux.
Bah, je vais surtout parler de mon père, bien sûr. Ouais. Je dois dire que oui, il me manque beaucoup. Bizarrement, d'ailleurs, les comédiens, comme de Funès, d'une certaine manière, on vit un peu avec eux, on les voit à l'écran tout le temps. Mon père, ça n'est plus le cas. Et puis, c'était mon père, surtout, et bien sûr, qui me manque chaque jour. Ça, c'est certain. Ça a été à la fois, évidemment, une magnifique histoire père-fille, fille-père. Et puis, en plus, ça s'est doublé d'une histoire professionnelle formidable.
C'était il y a une semaine, la Cinémathèque a ouvert ses portes à un groupe de naturistes pour venir voir l'expo. Clin d'œil aux gendarmes de Saint-Tropez. C'était la première fois que la Cinémathèque faisait ça pour une exposition. Même près de 40 ans après sa mort, Louis de Funès reste un avant-gardiste malgré lui, et votre père aussi d'ailleurs.
Oui, c'est une idée d'Alain Kruger, qui est le commissaire de l'exposition et qui a pensé que c'était évidemment un clin d'œil au premier gendarme, puisque les gendarmes intervenaient pour chasser les nudistes de la plage de Saint-Tropez. Donc voilà. Exactement. Non, mais je suis très très heureuse, surtout que la Cinémathèque est organisée évidemment cette exposition. Ensuite, au sein de l'exposition, que Alain Kruger est consacré cette grande. Enfin, ces deux salles qu'on consacrées aux films de mon père, qui sont un petit peu comme ça à part avec les succès que le public adore encore aujourd'hui. Et puis cette rétrospective de ces films que je dois dire qui me touche beaucoup parce que c'est l'entrée tout de même d'une cette forme de cinéma dans le temple du grand cinéma entre guillemets qui a souvent été un petit peu éloigné du cinéma populaire, le grand cinéma dit plus intellectuel. Donc c'est vrai que c'est une énorme satisfaction. Et puis je voulais quand même souligner aussi le fait que avec Jean-Pierre Lavoignat, nous avons écrit ensemble ce livre Mon père l'As des As l'année dernière, où j'ai été très surprise en fait du plaisir que j'ai eu à participer à cette écriture et à raconter beaucoup de choses que je pense justement le grand public ne connaissait pas de la vie de mon père.
Quand on pense à votre père, à vous et à de Funès, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est ça.
Arrêtez ! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter ? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc ! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos ?
Allons, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, allons.
La Grande Vadrouille, l'un des plus grands succès du cinéma français que vous avez co-scénarisé avec votre père. Alors quand on se penche un instant sur les chiffres de diffusion à la télévision depuis 30 ans, depuis qu'on peut en fait mesurer les audiences, c'est vertigineux. Écoutez bien, le film a été diffusé 21 fois à la télévision. C'est historiquement l'un des films les plus diffusés et toujours sur des grandes chaînes. À chaque fois, c'est un succès, entre 5 et 11 millions de téléspectateurs et surtout... Le succès est particulièrement au rendez-vous sur une cible qui va vous intéresser, Daniel Thompson, sur les moins de 25 ans.
sur les jeunes pour un film qui date de 1966. C'est tout simplement exceptionnel. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique parce que je pense que d'abord le public jeune, évidemment, n'a pas, il y a un public jeune qui se renouvelle. Et je l'explique aussi par le fait que le film a bien vieilli et il a bien vieilli parce qu'en fait il est très beau. Les images ne sont pas vieillottes, les images ne sont pas démodées comme très souvent, même des films très réussis et très drôles. On a quand même un sentiment d'une autre époque, de quelque chose d'un petit peu bâclé au niveau de la mise en scène, des décors, des costumes, de la photo. Mon père mettait un soin extraordinaire à ce que ces films soient beaux. Les musiques sont magnifiques. Ce sont les plus grands compositeurs de l'époque. Voilà, c'est un vrai spectacle. C'est pas seulement drôle. C'est tout à coup, en effet, quelque chose qui entraîne le public vers quelque chose qui va plus loin, et même, non, je ne vais pas parler de message parce que ce n'était pas du tout un langage que mon père utilisait, mais en plus, les thèmes ne sont pas juste comiques, c'est en général, ça va fouiller profondément dans des faits de société qui sont plutôt tragiques, et puis dont il aimait tout à coup parler de manière très drôle.
Et aussi parce qu'il vous avait à ses côtés et qu'il aimait, il disait, bénéficier de votre œil jeune. Dans un instant, Daniel Thompson, on sera en ligne avec votre invité Valérie Lemercier et on continue à se faire du bien avec vos films. À tout de suite sur RTL.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez triomphant, je n'ai pas assez orgueilleux de l'orgueil, mon sang.
Le journal inattendu sur RTL avec Daniel Thompson et Ophélie Meunier. Journal inattendu sur RTL. Avec Daniel Thompson et Ophélie Meunier.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup.
Que c'est bon de voir votre sourire en écoutant cette chanson. Il est franc. La tendresse, magnifique chanson de Bourvil, maintes fois dirigée au cinéma par votre père. Votre père disait que Bourvil, c'était le meilleur homme qu'il ait connu. Tendresse, complicité, ce sont des bons mots pour qualifier votre relation avec votre père.
Ah oui, bien sûr, oui, ça va au-delà de la tendresse d'ailleurs. C'est, ouais. c'est vraiment une très belle histoire, mais bon, c'est vrai que je souris quand j'entends la voix d'André, puisqu'on l'appelait André.
Oui, d'André.
Parce que c'est un personnage formidablement touchant, tellement drôle dans la vie de tous les jours, tellement chaleureux, tellement. C'était en plus une personnalité très balèze physiquement, chose qui se voit pas tellement dans les films. Il est une espèce de force de la nature et c'est pour ça qu'on a été complètement fracassé quand on a su qu'il était en train de mourir de cette maladie terrible et si jeune. Ça a été vraiment un chapitre épouvantable.
C'est difficile d'en choisir un, tant il y a eu de succès. Mais je sais que vous avez une tendresse particulière pour ce film. On dit très souvent qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus tourner Rabbi Jacob, que le climat est trop tendu. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, je pense que comme c'était à l'époque, on ne pourrait plus le tourner. C'était pas non plus un climat si facile à l'époque. Quand on se remet dans le contexte de l'époque, on était sur une espèce de fil du rasoir perpétuellement dans chaque scène. Donc les époques, voilà, malheureusement les problèmes se renouvellent et ça, et dans ce cas-là, ça grave plutôt. Mais ça n'était pas non plus un long fleuve tranquille.
On a quand même des humoristes, Gaspard Proust, Jérémy Ferrari, qui cognent. Et ils admirent en plus Louis de Funès. Donc on a quand même des artistes qui aujourd'hui se permettent d'aller loin dans l'humour.
Mais je pense que c'est très important de rire de tout et c'est très d'actualité avec évidemment tout ce dont on parle par rapport à l'histoire des caricatures. Je veux dire, il faut rire de tout. Mais il faut le faire évidemment avec de la légèreté, avec du talent, il faut pas être lourd, faut pas être non plus dans un état de de pour ou de contre d'une manière lourde. Mm-hmm. Et c'est tout ce qu'on a essayé de faire, en effet, dans Rabbi Jacob. Alors, c'est vrai que on est en train on a des tentatives de faire non pas du tout de refaire Rabbi Jacob, qui ne se refera jamais et qui doit rester tel qu'il est, et qui est, enfin, j'en parle en toute immodestie, mais enfin, c'est vraiment un film de mon père et qui est une petite merveille, mmh. que j'ai revu d'ailleurs à la Cinémathèque, il y a des projections en ce moment du film, mais on peut faire autre chose, on peut parler autrement de ce mélange de communautés, parce que Rabbi Jacob, c'est quand même des catholiques, des juifs, des musulmans, c'est un portrait de la société de l'époque à travers cette histoire qui est finalement à la fois un road movie, un thriller et tout ça. Bon, il faut essayer de faire ça autrement, mais voilà, on y arrivera ou on n'y arrivera pas, j'en sais rien.
Bonjour Valérie Lemercier, merci d'être avec nous.
Bonjour Ophélie, bonjour Daniel.
Bonjour Valérie.
Quand on pense à Rabbi Jacob, forcément on pense à cette scène géniale, hein, au César en 2007. Vous avez, quand on voit ce moment, vous riez Daniel Thompson en regardant Valérie Lemercier reprendre la danse de Rabbi Jacob. Quel souvenir vous gardez toutes les deux de ce grand moment?
Ça a été une surprise extraordinaire, parce que Valérie évidemment ne m'avait rien dit. Je crois que mes enfants étaient au courant, je crois que finalement tous les organisateurs étaient au courant, et nous, pas du tout. Donc j'étais complètement scotchée et séduite. C'était un moment extraordinaire.
Surprise réussie, Valérie Lemercier.
Ah bah écoutez, moi j'ai accepté de présenter les Césars uniquement pour ça. C'est-à-dire que quand Renaud Levanquin m'a dit « est-ce que tu veux le refaire cette année ?» et c'est pas du tout mon idée, c'est la sienne. Et il m'a dit, c'était malheureusement pour nous, pour le cinéma, pour Daniel, pour l'année de la disparition de Gérard Houry. Et on a voulu évidemment lui rendre hommage. Et il m'a dit « est-ce que tu voudrais redanser ça ?» Et j'ai dit « oui, rien que pour ça ». Et voilà, on avait caché même les répétitions. Géraldine Pellas, qui est la belle-fille de Daniel, était venue remettre un César. On s'était caché pour pas qu'elle nous voie, pour pas que ça fuite. Et puis voilà, et on avait dansé, surtout on avait appris avec le vrai chorégraphe qui a fait le film. Voilà.
Valérie Lemercier, Daniel Thompson vous a dirigé en 2005 dans Fauteuil d'orchestre. Vous avez reçu avec ce film le César de la meilleure actrice dans un second rôle le même soir. Vous avez dit qu'à travers ces films, Daniel Thompson veut rendre la vie légère, et rien que ça, ça vous donne envie de l'embrasser. Dans un climat si anxiogène en ce moment, est-ce que vous pensez toutes les deux que le rôle du cinéma est d'encore plus nous rendre la vie légère?
Alors Daniel, je te laisse parler.
Ben oui,
ça, Daniel ?
Ben oui, non, mais je pense que de toute façon, dans toutes les époques, et là en ce moment, c'est particulièrement vivant ce besoin de rire. Et puis, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment, c'est ce besoin de rire et d'être ensemble surtout. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime tellement aller au cinéma, dans les salles, et puis tous les films d'ailleurs, mais particulièrement les comédies. On voit pas le même film quand on est dans une salle avec des gens qui rient autour de vous. Alors là maintenant, bon, avec des masques, mais enfin c'est déjà pas si mal de pouvoir aller au cinéma. Et puis c'est vrai que moi j'ai vu bien sûr tous les films de Valérie, y compris d'ailleurs pas tout à fait terminé le prochain qui est magnifique. Mais c'est un bonheur à chaque
Aline.
Fois.
Valérie Lemercier, vous êtes en ce moment en promotion dans le sud-ouest de la France pour votre
sur les routes depuis une semaine.
Nouveau film, ouais.
Ouais, et on présente pour les premières fois, toutes premières fois. Aline, qui maintenant, Daniel, il y a juste un plan à changer, mais il est beaucoup plus terminé que quand tu l'as vu avant le confinement, juste avant.
Ouais. Alors vous l'avez vu, il est comment ce film ?
Il est magnifique. Ah. Il est magnifique, elle est magnifique. Et c'est un film qui va, à mon avis, avoir un grand succès, parce que c'est à la fois un film qui a une forme de gravité. C'est pas du tout une comédie au premier degré. Mm-hmm. Quand je parle de comédie au premier degré, je le dis avec beaucoup de respect et de sourire.
Évidemment.
Mais c'est un film qui montre vraiment qui va profondément dans le destin finalement d'une femme, mais en fait de beaucoup d'artistes, qui est le mélange entre la réussite réussite, ce que c'est que la réussite, et puis ce que ça implique aussi comme sacrifice, et puis le trajet de cette créature insensée, et cette voix insensée. Enfin, le film est formidable.
Je le précise, hein, c'est un film sur la vie et la carrière de Céline Dion que vous incarnez, Valérie Lemercier, et donc ce sera le 18 novembre dans les salles.
Bon
courage.
Que des acteurs québécois. Et j'ai pas plus de temps pour te dire, Daniel, comme je suis contente de t'entendre, que je pense à toi, que c'est toujours une joie de te voir à la scène comme à la ville. Voilà.
Bah écoute, à très vite. Et puis je vais revenir voir le film, puisque je l'ai quand même vu vraiment pas fini.
Voilà.
Oui, mais
voilà.
Cette fois-ci avec nous, alors. Bon courage, Valérie Lemercier.
Je t'embrasse.
À très bientôt.
Oui, à bientôt. Au revoir.
On se retrouve dans un court instant sur RTL pour la suite du journal inattendu de Daniel Thompson.
Le journal inattendu de Daniel Thompson. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
Journal inattendu de Daniel Thompson.
13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
Le fort de Saint-Thénard en Isère, site magique du massif de la Chartreuse, le bateau Lavoir à Montmartre, célèbre cité d'artistes ou encore l'hôtel de Matignon. Le public profite ce week-end des journées du patrimoine malgré les restrictions sanitaires à cause de l'épidémie. Si vous souhaitez visiter l'un de ces lieux, pensez à réserver. Le nombre de places a été réduit. Seul site accessible librement, le parvis de Notre-Dame pour découvrir à travers des ateliers et des reconstitutions la magnifique charpente disparue. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, positif au Covid-19. Il a précisé ne présenter aucun symptôme, mais il s'est mis à l'isolement et il va continuer à exercer ses fonctions en télétravail. La situation épidémique en France inquiète les hôpitaux. 13 215 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est un nouveau record. En Ile-de-France, 20% des lits en réanimation sont désormais occupés par des patients atteints du Covid-19. Le niveau 1 du plan blanc est activé. Les professionnels de la santé se sentent fragilisés, mais la PHP rassure, les procédures de recrutement sont en place. Cette information aux États-Unis qui électrise la campagne présidentielle, la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est décédée à l'âge de 87 ans. C'était l'une des plus grandes figures du Parti démocrate. Son remplacement se trouve désormais au cœur du combat entre Donald Trump et Joe Biden. L'Amérique progressiste craint un retour en arrière sur des fondamentaux tels que le droit à l'avortement, alors que les conservateurs espèrent renforcer leur pouvoir à la Cour suprême. Les sports avec la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre entre l'Ure et la planche des Belles-Filles qui sera décisif pour le classement général. Il est toujours mené par le Slovène Primoz Roglic. Rendez-vous demain pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce sera à vivre en direct sur RTL. En football, la suite de la 4e journée du championnat de France est à 17h avec le match Lens-Bordeaux. À 21h, Rennes rencontrera Monaco. On refait le match de 18h30 à 20h avec Christian Olivier sur notre antenne. Et puis bravo aux Bleus, l'équipe de France féminine a remporté sa 3e victoire en 3 rencontres, 2-0 hier contre la Serbie lors d'un match qualificatif pour l'Euro 2022. Et les nouvelles du temps, c'est avec vous, Daniel Thompson.
Alors, des orages et des périodes de soleil alterneront partout en France cet après-midi, avec toutefois des éclaircies plus fréquentes le long des frontières du Nord, et à contrario, des orages parfois violents dans le Sud, notamment en Roussillon. Les températures seront comprises entre 20 degrés dans le Finistère et 30 degrés dans le Lyonnais. Il fera 29 degrés à Paris et à Lille.
Même les orages dans votre voix, on les accepte finalement. C'était la météo de Daniel Thompson. Dans le journal inattendu, notre invité nous livre aussi son regard sur l'actualité. Tout autre chose, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est la situation très difficile des enfants qui ont été rapatriés des camps de djihadistes en Syrie. Alors je fais un point sur la situation aujourd'hui. Il y a environ 300 enfants français et une centaine de femmes qui sont retenus dans des camps insalubres dans le nord-est de la Syrie. Ces enfants et ces femmes, ils ont été arrêtés au moment de la chute de l'État islamique en février 2019 et depuis, ils sont détenus sans charge, sans procès. La France a rapatrié depuis mars 2019 seulement 28 de ces 300 enfants. Ça se fait au cas par cas. Il s'agit en fait des orphelins ou des plus vulnérables. Alors ces enfants rapatriés, vous avez voulu savoir, Daniel Thompson, où sont-ils ? Comment sont-ils réinsérés dans notre société ? Eh bien, c'est une enquête d'Émilie Beaujard.
Dès leur arrivée à l'aéroport de Roissy, les enfants sont pris en charge par toute une équipe de médecins, psychologues et éducateurs. Dans un premier temps, ils sont hospitalisés pour soigner leurs blessures physiques et psychiques. Ensuite, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et placés dans des familles d'accueil. L'objectif, c'est de les remettre au plus vite dans une vie normale, tout en étant très encadrés. Camille Lucotte est l'avocate de plusieurs de ces enfants.
Ils ne sont rien d'autre que des enfants. Donc, c'est important qu'ils aient le même cadre que n'importe quel autre enfant, aimant et sécurisant, leur expliquer d'où ils viennent, leur expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se sont battues pour qu'ils rentrent et leur dire qu'ils ont droit à une vie parfaitement normale.
Plusieurs mois après, les enfants vont bien, ils sont scolarisés, certains ont même pu retrouver leur famille, comme des grands-parents par exemple, qui demandaient leur garde.
C'est évidemment très satisfaisant et surtout ça devrait encourager le gouvernement pour se dire que ces enfants, il faut tous les rapatrier parce que c'est ça leur destin. Ils doivent avoir la chance d'avoir une enfance normale, d'être heureux, scolarisés, ici en France. Dans leur pays. Ces enfants, ils ont été emmenés en Syrie ou ils sont nés en Syrie par la décision de leurs parents.
On estime qu'il reste encore environ 300 enfants français en Syrie. Les trois quarts ont moins de 5 ans. Ils vivent dans des conditions sanitaires déplorables, dans des camps de fortune où il n'y a pas l'eau courante, pas de soins, peu de nourriture. Et en ce moment, il fait 45 degrés. Beaucoup d'enfants tombent malades.
On n'arrête pas d'appeler au secours, leur vie clairement est en danger, quoi, je veux dire.
Pascal parle de ses quatre petits-enfants et de sa fille, partie en Syrie en 2015. Ils sont détenus dans le camp de Al-Hol depuis un an et demi. Aujourd'hui, Pascal se bat comme de nombreuses autres familles pour obtenir leur rapatriement.
Monsieur Macron disait des rapatriements au cas par cas ou les cas humanitaires. Moi, je dis que tous les enfants sont des cas humanitaires parce qu'ils sont tous malades. J'ai des photos sous le nez de mes petits-enfants chez moi et demain on va me dire qu'un enfant est mort d'une maladie infantile qui se guérit en 3 jours ici. Non, c'est inconcevable. C'est les abandonner à leur triste sort. Donc on ne pourrait pas dire « on ne savait pas ». C'est pas de notre faute, il faut arrêter un peu.
Pascal est d'autant plus inquiète ces dernières semaines que sa fille et les enfants ont été transférés dans un autre camp sans raison officielle. Depuis, elle ne peut plus les joindre.
Je vous sens désolée à l'écoute de ce reportage.
Oui, parce qu'évidemment, c'est un problème terrible. Et puis, je suis... j'en parle de temps en temps avec ma fille qui est psychanalyste et qui s'occupe beaucoup de ces questions. Mais on parle de d'enfants qui devraient avoir une vie normale. Mais on connaît leur vie dans les camps et l'atrocité de cette vie dans les camps. Et ce qui m'intriguait, c'est que je ne connais pas, et d'ailleurs, je n'ai d'ailleurs pas les réponses, parce que tout ça, bien sûr, et j'imagine dans une grande intimité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie normale pour un enfant qui est sans sa maman, qui a été donc séparé de sa maman et qui en même temps, d'ailleurs si la maman revient, de toute façon il est séparé aussi de sa maman puisqu'elle est incarcérée. Et qu'est-ce qui se passe dans ces familles d'accueil, dans les familles des grands-parents? Comment on arrive à tout à coup redonner une vie normale, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, à des enfants qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont jamais connu
un
lit confortable, qui n'ont jamais connu une table avec des bonnes choses, qui n'ont jamais connu ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, ne pas avoir peur, et en même temps, voilà, qui sont des orphelins.
Vous tentez parfois de se mettre à la place justement de ces parents, de ces grands-parents qui accueillent ces enfants qui sont perturbés.
Je suis très 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 curieuse de la forme de générosité que d'abord ont ces familles d'accueil et de ce que ça doit être pour ces grands-parents de récupérer la chair de leur chair dont ils ont été séparés toutes ces années avec ce que ça a pu comporter, j'imagine, d'inquiétude et de terreur, et puis d'arriver à apprivoiser ces enfants, parce que je pense au film magnifique de François Truffaut, L'enfant sauvage, c'est un petit peu un apprentissage qui doit probablement qui me rappelle ce que c'est que de récupérer des enfants qui n'ont aucun des codes de nos vies, entre guillemets, encore une fois, normales. Je trouve que c'est absolument passionnant et bien entendu un problème énorme, puisqu'il y en a beaucoup qui sont encore là-bas.
Oui, sachez que 76 élus au Parlement français et européen appellent les autorités à rapatrier tous les enfants français et leurs mères détenus en Syrie pour des raisons sécuritaires et humanitaire. Dans le journal inattendu, on retrouve un petit peu de légèreté après une courte page de pub, les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Vous nous raconterez où ça en est, Daniel Thompson. À tout de suite.
Journal inattendu de Daniel Thompson avec Ophélie Meunier sur RTL.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolis?
Oui. Très.
Bardot, Daniel Thompson, vous avez souhaité partager avec les auditeurs des extraits de films ou de musique qui vous ont marqué parce qu'ils évoquent un souvenir ou ils sont en relation avec l'un de vos projets. Alors, Brigitte Bardot, extrait de son monologue au tribunal dans le film La Vérité, c'est votre premier choix.
Croyez encore à cet amour? Moi pas.
Tu sais, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je le verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé.
Vous avez un projet de série télé en cours sur la jeunesse de Brigitte Bardot. Racontez-nous où vous en êtes.
Ça me touche beaucoup d'entendre cet extrait parce que c'est pour ça que je voulais demander parce qu'elle est formidable, c'est un des grands films dans la carrière de Brigitte Bardot, de film de Clouzot donc qui curieusement d'ailleurs dans les 8 épisodes que nous avons écrits, Christopher mon fils et moi qu'on vient de terminer d'écrire.
Ça vient de se terminer d'écrire.
Et donc c'était en effet, on termine pratiquement là-dessus, c'est-à-dire qu'on termine sur le tournage de ce film. Elle a 26 ans, donc notre série, il y aura peut-être une deuxième saison, mais pour l'instant c'est l'histoire d'une très 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 jeune fille d'ailleurs de 15 ans au départ, et puis on va jusqu'à cette époque où elle a tourné La Vérité de Clouzot, qui a été un tournage éprouvant. Parce que d'abord Clouzot était un metteur en scène extrêmement difficile et très 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 brutal dans tous les sens du terme, et elle a vécu un moment très 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 difficile avec ce film, comme dans toute l'histoire d'ailleurs de toute cette série, c'est mêlé entre sa vie privée, ses problèmes personnels, sa famille, les hommes qu'elle a aimés, la naissance de son fils qui est un bébé à l'époque. Et ce tournage très dramatique pour elle, où elle est absolument extraordinaire, et qui sont d'une certaine manière qui la font entrer peut-être. Il y a eu déjà En cas de malheur, qui était un film magnifique qu'elle avait tourné un peu plus tôt, mais ça a été vraiment le passeport de Brigitte pour la qui a été respectée en tant que grande comédienne qu'elle est.
Et cette série, c'est à découvrir quand?
Ah ben ça c'est trop tôt pour le dire, c'est trop tôt.
On a hâte, en tout cas. Alors, côté musique, Daniel Thompson, vous avez choisi d'écouter ça.
Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es?
Stromae, papa, où t'es? Qu'est-ce
J'adore
que cette
Stromae.
Chanson évoque pour vous?
Mais j'avais repérer Stromae quand il est passé tout jeune, je crois pour la première fois, sur l'émission de Michel Drucker un dimanche après-midi. J'ai vu ce jeune homme surgir sur l'écran, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce personnage incroyable, cette beauté, ce look complètement inattendu et magnifique. Voilà, je l'avais dans l'œil depuis le tout début, et puis évidemment après il a fait la carrière qu'il est en train de faire, et voilà, mais j'avais pas demandé que Stromae.
Alors la suite, c'est David Bowie. Let's Dance.
Put on your red shoes and dance the blues.
Les en parliez de David Bowie dans votre autoportrait.
Oui, parce que je pense que c'est un souvenir formidable. Ça, c'est le souvenir des, évidemment des coulisses, des fameux concerts dont je parlais tout à l'heure, de l'homme de ma vie. Et donc David Bowie, j'ai eu la chance de le côtoyer de temps en temps. Et comme beaucoup d'autres de toute cette génération de musiciens qui venaient de l'étranger et que Albert produisait en France. Et puis c'est vrai que c'est un de ceux qui m'a le plus frappé par son élégance, par son mystère. Je parle de l'homme dans la vie. Et il y a vraiment c'est un personnage totalement magique. Et puis évidemment la musique, les chansons que j'adore, mais bon, c'est lié un petit peu à notre vie de l'époque, c'est même lié beaucoup à notre vie de l'époque, et j'en parle avec un peu de nostalgie, parce que c'est vrai que d'être assise à 3 mètres de lui sur la scène pendant les concerts, ce sont des moments de ma vie qui me restent et qui sont complètement insensés.
Mais une nostalgie heureuse. Dans un instant, la surprise promise, et vous laisserez un message à une personne de votre choix sur le répondeur du journal inattendu. À tout de suite avec Daniel Thompson.
Le journal inattendu sur RTL avec Daniel Thompson et Ophélie Meunier. Le journal inattendu de Daniel Thompson
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Vous êtes ici pour les deux grandes rétrospectives consacrées à votre père Gérard Oury et à Louis de Funès. En 1980, Louis de Funès co-signe son seul film en tant que réalisateur, L'Avare, avec Jean Giraud, Harpagon, l'un des plus grands rôles de sa vie.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, juste au ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent.
L'Avare revient au théâtre à Paris en octobre, tenu par Michel Boujna, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
Comment vous vous sentez à quelques jours d'endosser devant le public le costume d'Harpagon?
Très angoissé.
Ah oui?
Très angoissé, mais bon, heureusement que je travaille avec Daniel Benoît, qui embrasse Daniel très fort d'ailleurs.
Mais je vous embrasse tous les deux.
Et j'ai très peur. Mais bon, c'est la règle du jeu.
Alors, avant d'avoir Daniel Thompson comme spectatrice au théâtre, vous aviez son père. Daniel Thompson, vous avez raconté que Gérard Oury était toujours à l'affût de découvrir les nouveaux talents et qu'il avait très tôt vu les spectacles de Michel Boujna. Qu'est-ce qu'il en disait ?
Il est tombé amoureux.
Rien que ça.
Oui, Michel était tout jeune, et c'est vrai qu'il était... Il était très très à l'affût de personnages qui pouvaient tout à coup devant une caméra et avoir cette énergie cette photogénie, cette énergie et ce talent de comique qu'il avait évidemment eu avec Bourville, de Funès, Belmondo, Montand, c'était, et donc Michel, ça a été un successeur bien bien digne
Michel
de ses fantasmes.
Vous avez dit que c'était un rôle monumental, le rôle d'Harpagon. Une petite appréhension du regard de Daniel Thompson sur votre performance à partir du 15 octobre ?
Bien sûr, mais à la fois Daniel est j'ai très peur de son regard, et en même temps, elle est tellement bienveillante que ça me fait du bien de savoir qu'elle va venir. On a tellement ri ensemble. Et on rit toujours encore ensemble.
Mais oui, je sais que
c'est
très
important.
Vous êtes très amis dans la vie. Alors, Michel Boujna, comment elle est, Daniel Thompson, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants et de son mari?
Mais Daniel Thompson est une femme incroyablement formidable. Je suis encore très jaloux de son mari. C'est un cadeau, Daniel Thompson, pour ses amis, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. C'est une femme qui... Vous savez, c'est rare de voir une artiste qui a autant d'empathie pour les autres et autant d'intérêt pour les autres. En général, les artistes sont très tournés vers eux-mêmes. Et Daniel, elle aime les gens.
Michel Boujna,
c'est très touchant, c'est très, ça fait du bien, vous ne pouvez pas savoir.
Vous êtes en ligne, alors du coup, je me permets de vous le dire, mais Danielle Thompson a les larmes aux yeux à vous écouter. Je pense qu'elle est très touchée par vos mots. Merci Michel Boujna, on vous retrouve au Théâtre des Variétés dans la Var à partir du 15 octobre. On vous souhaite bonne chance et bonne chance sous les yeux de cette grande amie qui est Danielle Thompson pour vous.
Oui, je l'embrasse et j'ose lui dire bonne année.
Je t'embrasse, bonne année, absolument, et puis je viendrai te voir et je me réjouis, parce que ça va être très intéressant de voir la manière dont toi, tu vas attaquer ce personnage insensé.
Je suis très très impatient, de toute façon, le jour où tu vas venir, une fois que tu seras venu, j'arrêterai de jouer, comme ça, le travail sera fait.
Merci. D'accord. Merci Michel Boujna d'avoir participé à cette petite surprise. C'est le moment de notre nouvelle rubrique, le répondeur du journal inattendu. Je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Alors, qui avez-vous choisi, Danielle Thompson ?
Alors, j'ai choisi Guillaume Gallienne.
Pour quelle raison ?
On reste avec Molière.
Oui.
On reste avec Molière parce que Guillaume va être en pleine répétition et c'est un moment je pense difficile pour la Comédie-Française.
Il va jouer le malade imaginaire.
Le malade imaginaire. J'ai eu le bonheur de voir le malade imaginaire en tournée parce que il y a eu une séance à Neuilly qui n'était donc pas un Paris intramuros. Mm-hmm. Je me suis précipitée. La pièce évidemment, on parle même plus de la pièce qui est formidable, mais l'interprétation de Guillaume est magnifique. Et j'ai vu, je l'ai vu évidemment sans masque, le public sans masque. Et les comédiens sans masque. Donc je vais revoir cette pièce et là, je pense que le public sera masqué et les comédiens aussi, parce que le spectacle fait partie d'un des rares spectacles où on peut jouer, justement, puisqu'on ne parle que de maladie et de médecine. Les comédiens, d'après ce que m'a raconté Guillaume, vont jouer en grande partie masqués sur la scène.
Alors je vous laisse laisser votre message à Guillaume Gallienne.
Vous êtes bien sur le répondeur du journal inattendu, votre message après le bip sonore.
Cher Guillaume, je t'imagine sur cette grande scène du Théâtre Marigny, en train de jouer, je pense, toi sans masque, puisque tu es le malade imaginaire, avec autour de toi tous ces médecins et tous ces personnages qui vont être masqués autour de toi. Et je pense que c'est une nouvelle manière d'exercer ce magnifique métier de comédien, donc d'être sur une scène avec des gens masqués, et puis et surtout le public qui va rire, puisque la pièce est très drôle par moments. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est que d'être sur une scène et de ne pas entendre trop les gens qui rient. Je pense beaucoup à toi et à d'autres comédiens et d'ailleurs aussi aux humoristes qui se retrouvent sur scène avec des gens qui rient sous masque. Donc je te souhaite d'être heureux sur cette scène et de vivre cette expérience avec tout l'humour et tout l'enthousiasme que je connais chez toi.
J'espère qu'il viendra nous le raconter. Merci Danielle Thompson, de grandes rétrospectives à ne pas manquer en ce moment à la Cinémathèque à Paris, consacrée à Louis de Funès et à Gérard Horry, votre père, c'est en partenariat avec RTL. Dans un instant, un point sur le Tour de France et puis Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré à Gérard de Villiers. Bon week-end à tous sur RTL et rendez-vous bien sûr samedi prochain.
Le journal inattendu sur RTL. RTL Tour de France 2020, Nicolas Georgerot.
Cette 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France 2020 entre Lure et la planche des Belles-Filles contre la montre de 36 km 200 en Haute-Saône. On rappelle le profil, 30 km de plat ou de faux plat montant, puis 6 km d'ascension qui se termine par une pente à 20% dans les derniers hectomètres. 22 coureurs se sont élancés pour le moment. Premier point intermédiaire, c'est l'Allemand Kluge qui est passé en tête avec un temps de 18 minutes et 21 secondes, détrôné à l'instant par un autre allemand, Walscheid, 18 minutes et 3 secondes. Maxime Chevalier, le français, le Benjamin de ce Tour de France, a réalisé le quatrième chrono lors de ce premier point intermédiaire. Et on surveillera la pluie. Quelques gouttes sont tombées tout à l'heure au sommet de la planche des Belles-Filles. Prochain point sur cette route du Tour de France, sur ce contre-la-montre, tout à l'heure à 14h.